Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
On va ouvrir notre Bible, et puis je vais vous poser avant de lire le texte, il est très court, il y a quatre mots. Ça va aller, alors on va voir ce que l'on peut dire. Je voulais vous poser une question. Vous avez combien de clés chez vous? D'abord, il y a combien de portes? Parce qu'en principe, voilà. Et quand on considère que l'on peut avoir pour une porte 2-3 clés, en comptant les véhicules, un moteur, etc., etc., ça fait quand même beaucoup. Et vous savez qu'il y a toutes sortes de clés, hein, on va vous en parler d'une, là, dans la Bible. Alors, il y a des clés qui sont tout à fait différentes. Moi, j'ai plusieurs modèles, hein. J'ai la clé de la voiture, là, elle est spéciale, hein. Voilà. Si vous voulez prendre ma voiture, faudra me prendre la clé, hein, parce qu'elle démarre pas autrement, hein. Et puis, il y a toutes sortes de choses, hein. Alors, aujourd'hui, on est passé aux clés électroniques, aux badges, vous savez. Alors on se demande, hein, on se dit, mais c'est quelque chose. Et puis c'est pratique parce que finalement, ça ne prend pas de place. Moi, je vois, depuis je ne sais pas combien de temps, je traîne ça dans le fond de mes poches. Hein, mon épouse me dit, mais tu fais des trous. Voilà. Mais on en a encore à l'ancien modèle, vous comprenez? Mais alors justement, c'est pour ça que je vous dis tout cela. C'est simplement un petit clin d'œil, hein, une introduction. Alors écoutez, on va prendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9. Jésus nous dit des choses assez étonnantes. Parce qu'il nous parle de porte. Alors une porte peut avoir naturellement, eh bien, peut fonctionner sans clé, mais c'est ouvert à tout vent. Hein. Et puis elle fonctionne aussi avec des clés. Et là, il y a un aspect tout à fait particulier que nous allons comprendre. Alors, dans Jean chapitre 10, verset 9, je lis ceci. Alors ça va être très simple. Hein. « Je suis la porte ». Voilà. Plus haut, il dira que... quelque part, mais celui qui entre par la porte est le berger, le portier lui ouvre, etc., etc. Et puis un peu plus loin, il nous est parlé également que, voilà, je suis la porte des brebis, précisé. Alors, ceci pour nous dire que Jésus a enseigné avec des métaphores comme ça, et il nous montre, eh bien, des réalités spirituelles. C'est important parce que nous allons faire un petit survol. Oh, ça sera pas très long, mais un survol de la parole de Dieu où il est question finalement des clés. Différentes clés. Et on est bien embêté quand on les perd, les clés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on reste dehors. C'est ça. Et c'est encore plus tragique quand les portes se referment automatiquement, vous laissez, les clés sont à l'intérieur, et puis que vous pouvez plus rentrer. Alors ça coûte cher parce qu'il faut faire venir le serrurier. On est bien embarrassé, hein, dans ces situations. Et je suppose que ça vous est jamais arrivé d'oublier vos clés et de rester dehors. Ça, je rappelle des mauvais souvenirs, vous m'excuserez, hein. Mais bon, on va l'oublier rapidement. Jésus nous dit, je suis la porte. Et si vous compulsez la Bible, vous vous apercevrez que il y a différents sujets où il est question des clés. Ça va avec les portes. Ça sert à rien d'avoir finalement une clé ou des clés s'il n'y a pas de porte. Alors, Jésus nous dit, je suis la porte. Mais pour nous emmener où? Pour nous montrer quoi? Pour nous faire rentrer dans quel autre espace? Alors, il y a des portes dans lesquelles nous nous retirons, derrière lesquelles nous nous retirons parce que c'est chez nous. Et puis, il y a bien d'autres situations qui peuvent être évoquées. La première chose qui apparaît dans l'Écriture sainte, ça vient du prophète Ésaïe, quand il est parlé des clés qui sont liées à toutes les richesses, à toutes les possibilités inimaginables que comportent les promesses que Dieu nous fait, les promesses divines. Et si l'on tourne quelques pages, vous le suivez avec moi, vous le lisez, mais je vais vous restituer les textes, hein, n'ayez pas peur. Mais c'est très simple, dans Ésaïe au chapitre 22 et au verset 22, il nous est dit ceci. Et c'est intéressant parce que il s'agit d'Israël, mais par-delà, eh bien, nous pouvons faire un bon usage nous-mêmes, peuple de la foi, peuple de Dieu. Et Dieu dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette parole ? Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce sont peut-être des expressions que nous avons lues, que nous avons retenues, clé de la maison de David. D'abord, qui est ce « il » On peut considérer que c'est Dieu qui fait la promesse. Comme il fait tant d'autres promesses, autant hier que pour nous aujourd'hui, et celui qui recevra sur son épaule la clé de la maison de David, on le sait hein, par la généalogie, on le sait par les promesses de Dieu, c'est tout simplement Jésus. Voilà. C'est lui, imaginez-vous, c'est lui qui a reçu les clés de la maison de David. Et à travers toute l'histoire davidique, toute l'histoire des descendants de David pour aboutir au Messie pour Israël. Et nous voyons avec quelle difficulté les contemporains de Jésus, les autorités religieuses ont tourné les clés dans tous les sens pour véritablement ouvrir cette porte qu'ils n'ont jamais pu ouvrir pour une raison que nous allons définir et nous allons nous étendre tout à l'heure, c'est l'incrédulité. Ah, ils les ont prises les clés, hein. Ils ont cherché dans la Bible, ils ont essayé de recouper, ou ils ont fait le recoupement avec des versets bibliques, mais c'est pas possible que ce soit lui. Ce Messie qui est né dans une bourgade perdue dans les montagnes, dans les monts de Galilée, c'est pas possible. Alors les clés, ils les ont contemplées, ils les ont retournées, ils les ont perdues, en quelque sorte. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira bien et le confirmera quand il écrira aux Éphésiens ce texte extraordinaire, parce que je vous conseille de lire Éphésiens. Il dira, mais en lui, par lui, tout est en lui. Alors il n'y a pas de doute, hein. Toutes les promesses de Dieu se réalisent en Jésus. Et si vous avez cette clé-là, ben vous avez tout le reste. Le ciel, la terre, le monde, tout est à vous, dira Paul. Je voudrais donner une explication, c'est que dans l'Antiquité ou dans les temps anciens, les clés ne se tournaient pas dans le verrou. Quelquefois on a du mal, hein, parce que bon, les clés sont abîmées ou les verrous sont abîmés ou quelquefois on se trompe de porte. Mais ça peut pas passer, hein, parce qu'à chaque clé, à chaque porte, il y a une clé, hein, c'est normal. Et ça ne se tournait pas dans le verrou de la porte. Les clés se portaient à la ceinture ou sur l'épaule. Alors je ne sais pas comment on peut s'imaginer les choses, mais quelquefois il y a des gens qui, avec un petit mousqueton, ont leur clé. Alors ça, vous savez, ça fait un petit peu comme dans les montagnes. Vous savez, il y a toujours un petit bruit là, qui une petite clochette. Hein, plus vous en avez, plus ça fait de bruit, naturellement. Enfin, bon, c'est une diversion que je suis en train de... L'épaule, et pourquoi la Bible nous dit « Je mettrai les clés de la maison de David sur l'épaule, sur son épaule », c'est que c'est l'image de l'autorité, et c'est l'image également de la force pour porter quelque chose. Quand on porte un fardeau, eh bien, si on n'est pas suffisamment capable de le porter, seulement, eh bien, au niveau de notre taille, on le met sur l'épaule. Ça soulage, hein. C'est les hommes, les messieurs qui font cela, hein. Quand il y a des travaux de force. Donc l'autorité et la force pour porter ce quelque chose. Si Jésus s'est chargé sur ses épaules, parce que c'est toute l'image de la croix que nous avons là aussi, de tous les poids oppressants qui tyrannisent la vie des hommes, et parfois même des enfants de Dieu, c'est que nous n'avons plus à les porter nous-mêmes. Ça, c'est important. Si lui l'a fait, eh bien, ce n'est pas à nous de le faire. Il y a deux directions dans la conception de la vie chrétienne. Il y a la conception où nous faisons tout par effort, et là, nous n'avons pas fini de nous épuiser. Ou alors, à ce moment-là, eh bien, nous nous reposons sur Christ, puisqu'il a dit cette parole éternelle, tout est accompli. Je dis bien, elle est éternelle, elle n'est pas seulement temporelle, mais elle est éternelle, tout est accompli. Quel soulagement, quelle délivrance. C'est pourquoi il nous est dit dans Ésaïe, eh bien, que Dieu mettrait sur ses épaules les clés de la maison de David. Parce que c'est David qui a les promesses aussi, hein, il réalise naturellement. Les clés de la maison de David servent à entrer et à sortir du palais royal ou des palais divins. Mais quand on y est rentré, on y reste, hein, parce qu'il n'y a pas rien d'autre à dire. L'approche ou l'inaccessibilité d'un simple sujet auprès du roi. Nous avons, à partir du moment où nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons la clé maintenant. Nous disposons de la clé. Je ne donnerai pas mes clés à n'importe qui. Je fais confiance. Mais ces clés, celles-là, vous les avez. Cherchez-les. Mais vous les avez, vous les détenez, ces clés. Quelquefois, on entend des chrétiens dire « mais j'y arrive pas, je peux pas y arriver, je tourne en rond et ceci et cela ». Mais vous avez la clé. Je voudrais vous le rappeler, de la part du Seigneur, vous avez les clés. Et il vous appartient finalement de les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, eh bien, ça restera dans l'état, tout simplement. Cet accès auprès du roi, de rentrer dans la maison royale. Et le prophète nous le dit bien, que nous pourrons ouvrir et nous pourrons fermer. Tout dépend naturellement de notre foi ou de notre incrédulité. Et vous savez, quand Paul dit que Jésus est le seul médiateur, imaginons que cette médiation, c'est une clé. Un seul nom invoqué auprès de la maison royale, enfin de Dieu dans la maison céleste, eh bien c'est une clé entre Dieu et les hommes. Et Jésus le dira d'une manière tout à fait commune que nous connaissons bien, mais je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Avec cette clé-là, eh bien vous pouvez rentrer dans les communions avec votre Père, avec je suis la clé en quelque sorte, et je suis à la fois la porte, parce que ça correspond. La porte a une clé qui lui correspond. Cet accès, eh bien, il se fait au nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus l'enseignera, il dira en mon nom, auprès de Dieu, qui nous assure toutes les promesses de bénédiction présentes et éternelles. Ouvrir et fermer. Vous savez que nous avons des possibilités insoupçonnées que nous n'utilisons pas. Nous sommes en delà de nos capacités, enfin, des capacités que Dieu nous a données. C'est pour cela que l'Église, quelquefois, est languissante, elle est gémissante. Elle se lamente, mais nous avons un trésor, frères et sœurs. Avoir les clés d'un trésor, c'est quelque chose. Et vous l'avez, vous n'êtes pas en dessous, ou si nous nous mettons peut-être en dessous, mais vous avez une potentialité spirituelle que vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, Dieu m'a mis à cœur de vous apporter ce texte pour vous encourager. C'est une exhortation pour vous dire, mais attendez, ne regardez pas ce qu'il vous manque, mais regardez ce que vous avez. On peut être assis, d'une manière indolente, assis sur un coffre de trésors et puis ne pas savoir comment faire pour, prendre, se servir. Alors, ouvrir et fermer. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, il nous est dit, voici ce que dit celui qui a la clé de David, parce que c'est le même texte dans Ésaïe qui est repris dans l'Apocalypse. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, c'est notre texte que nous avons lu tout à l'heure. Quand Jésus ouvre la porte, ouvre nos portes, ne nous laisse pas dehors, mais qu'il ouvre la porte, et ces portes-là ont une signification. Ça s'appelle la conscience, ça s'appelle le cœur et ça s'appelle l'âme des hommes, l'esprit de l'homme, pour y faire pénétrer l'évangile, parce que c'est ce qui va permettre le mouvement de débloquer le verrou. C'est le message de l'évangile. Et nous ne pouvons agir et nous ne pouvons voir la grâce de Dieu que dans la mesure où nous croyons dans l'évangile. Si nous ne croyons pas dans son message, dans sa parole et dans ses promesses, il ne se passera rien. La clé sera peut-être engagée dans le verrou, mais ça ne tournera pas. Et le message de l'évangile, c'est un message qui permet l'action. Par ce que je lui donne, je donne foi à ce que j'entends. Pénétrer, laisser pénétrer l'évangile. Et je peux vous dire que quand on est enclenché, quand on est engagé, quand on est, eh bien là, dans cette perspective, mais tout nous est possible. C'est pour ça que j'ai dit, mais tout est possible. C'est une autre façon de présenter les choses, hein, vous l'avez compris. Et de savoir que il y a une assurance, il y a une garantie. Si auquel cas nous perdions les clés, Jésus nous dit, nul ne les ravira de ma main. Quel souci hein, quand on perd ses clés. Parce qu'on se dit, si quelqu'un rentre, si quelqu'un fait, et surtout aujourd'hui où il y a tant d'attentats, tant de choses à la vie privée des gens, et c'est terrible. Hein. On a quelquefois regardé des reportages où les gens se sont fait voler leurs clés, se sont fait voler leurs cartes de crédit et tout ça, parce que ça, c'est aussi une clé hein, pour accéder à votre argent. Hein. Il y a des choses qui sont aberrantes. Hein. Puis il y en a qui font que ça, hein, pour essayer de voler. Ils font que ça, naturellement. Alors, nous avons cette promesse. Et nous voyons que Ça, c'est les certitudes qui nous sont données. Il faut savoir si nous sommes dedans ou si nous sommes dehors. Mais pourtant, il y a tellement d'espaces dans lesquels nous devons pénétrer, nous devons nous épanouir, nous devons grandir, nous devons être à la fois une bénédiction pour Dieu, mais une bénédiction aussi pour les autres, parce que ça vient de là-haut, mais ça doit rejaillir. Alors, savoir où nous nous situons. Voici, je frappe à la porte. Toujours la notion de porte et de clé. Hein. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, donc il y a la démarche de confiance. Je n'ouvre pas à quelqu'un que je ne veux pas voir entrer chez moi ou je n'ai pas confiance en lui. Mais s'il frappe, je frappe. S'il entend et qu'il ouvre, alors à ce moment-là, la chose est faite. Ça, c'est la première proposition sur la notion de clé et de porte. Il y a une deuxième qui est beaucoup plus, nous pourrions dire, intellectuelle. Là, nous avons vu les promesses divines, la clé des promesses divines. Si je vous dis que Jésus nous a parlé de la clé de la science, ça se trouve dans quel livre? Vous avez entendu parler? La clé de la science. Alors, je ne veux pas vous faire languir. Hein. Je vois que vous avez perdu la clé. C'est dans Luc, chapitre 11, et verset 52. Alors, il nous dit ceci. Et là, il s'adresse à véritablement des gens qui se sont mis en hostilité, qui sont remplis d'inimitié contre Jésus. Des gens qui font fausse route et qui pertinemment, enfin, en leur conviction personnelle, pensent qu'ils sont dans la bonne voie. Écoutez, Jésus parlera donc de ces docteurs de la loi, de ces scribes, de ces pharisiens, des gens qui se considéraient peut-être à juste titre, eh bien au-dessus du bas peuple. Hein. Enfin, alors il dira « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé, peut-être que nous pourrions changer les mots, vous avez subtilisé, vous avez volé les clés de la science, et vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient entrer. » Ça, c'est un drame. C'est une tragédie. Faut que je mette les mots à la bonne place, que je retrouve les clés du langage. Écoutez, ces scribes, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, étaient les détenteurs de par Dieu quelque part, de par leur connaissance, leur instruction, de quelque chose qui les mettait au-dessus, finalement, et bien des autres. Et Dieu leur avait confié des oracles, leur avait confié des choses qu'ils étaient préposés à enseigner. Mais dans la vérité, dans ce qui est juste, dans l'exactitude de la pensée de Dieu. Alors, Jésus va les interpeller, il va leur dire « Malheur ». C'est quelque chose, hein, ce mot, cette condamnation, ce réquisitoire, malheur à vous, parce que vous avez enlevé les clés de la science, mais pas de n'importe quelle science, de la science qui fait connaître aux hommes Dieu, qui fait connaître la grâce de Dieu, qui fait connaître l'amour de Dieu, qui fait connaître les principes moraux de Dieu, qui fait connaître les principes de sainteté de Dieu, donnés par ces grands prophètes de l'ancien temps. Oh, dont il se faisait fort de les citer avec la bouche, avec les lèvres, mais qui quelque part en avait fini par retirer complètement la notion de l'esprit de ces paroles. Alors vous avez enlevé les clés de la science, vous les avez volées, et vous l'avez complètement dénaturée, changée, édulcorée, pour en faire votre science à vous. Vous n'êtes pas rentré vous-même parce que vous en êtes sorti. Quelle gabegie! Quel massacre, nous pourrions dire. Parce que ça touche les âmes, là. Vous n'êtes pas rentré vous-même, mais alors maintenant, quand quelqu'un dit, mais je voudrais connaître la vérité, je voudrais connaître ce qui est de Dieu. Comment est Dieu? Qui est Dieu? La volonté de Dieu? Alors vous avez tellement verrouillé de l'intérieur que maintenant plus personne ne peut rentrer. C'était toute l'attitude des pharisiens à l'égard de Jésus, hein, et de toute cette société. S'il arrive que les hommes, à leur manière, veulent pénétrer dans le royaume de Dieu à défaut d'utiliser la bonne clé, la seule qui a toujours été préconisée, la foi, même dans l'Ancien Testament, la foi était toujours présente même au milieu de la loi, Alors, que nous appliquions et que quelqu'un veut dire, eh bien, je veux rentrer par la bonne porte, c'est-à-dire Jésus, et que l'on multiplie les tentatives à l'instar justement de ces intrus dont il nous est parlé, Jésus va répondre, tout simplement, il dira, mais celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et il s'adressait à qui? Il s'adressait à tous ces hommes collés montés, tous ces hommes de la religion, tous ces hommes du temple et des synagogues, qui pensaient que ils détenaient le pouvoir, ils connaissaient la porte, et ils connaissaient les clés, alors que finalement ils ne connaissaient rien du tout, ils étaient encore en dehors, avec l'illusion, et ça c'est, je pense, tout ce que les religions dans le monde ont pu faire pour empêcher les gens de venir à Jésus et de croire en Dieu. À travers leur liturgie, à travers leur doctrine, à travers toutes sortes de choses. Et un des moyens a été de s'imaginer qu'on pouvait s'approcher de Dieu et plaire à Dieu par l'acquisition de la connaissance universelle. Eh oui. Alors on a poussé les gens à se s'égarer dans toutes sortes de conceptions humaines, humanistes, charnelles, terrestres, en dehors de leur avoir, eh bien, laissé à loisir se délecter des paroles et de la volonté de Dieu, qui est quelque chose de tout simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Ça va pas plus loin que ça? Ça va? Dis donc, hein. Quelque chose, hein. La connaissance universelle est aujourd'hui à travers la théologie. À travers toutes sortes de choses, on matraque les gens en disant « Mais c'est par la force de notre intelligence que nous, on va y arriver. On finira bien par connaître tous les mystères de l'univers. » Et les hommes y croient en ce moment. Hein. Ils sont en train de multiplier depuis quelques décennies ou quelques centaines d'années. Hein. Depuis que le monde s'est dit moderne. Eh bien, à travers toutes sortes de moyens pour dire, eh bien, on y arrivera quand même. Et on n'a pas besoin de Dieu. C'est tout simplement le remake de Babel, hein, quoi qu'il en soit. Et de posséder la clé de la science. C'est pour cette raison que les routes de l'Éden, vous vous souvenez? Les routes du jardin d'Éden ont été barrées, parce que quand on voit que la subtilité de l'adversaire, c'est que si tu manges du fruit de l'arbre de la science, de la connaissance, du bien et du mal, ben, tu seras comme Dieu, tu ne mourras pas et tu connaîtras tout. Ce fruit empoisonné, ben, nous l'avons encore. Hein. Ouais. Et c'est à cause de ça que les routes ont été barrées, puisqu'il nous est dit que Dieu a mis des chérubins pour empêcher les hommes de prendre et d'atteindre le fruit de l'arbre de vie. Alors, docteur de la loi, scribe, légiste, philosophe, théoricien ou théologien, sage, gourou, toutes les religions et tout ce qui va avec, n'ont cessé de multiplier pour offrir sous les noms les plus pompeux de sciences, parfois des sciences occultes, d'abreuver les hommes de mystères, de secrets du ciel et de toutes sortes de choses. Et voilà que Jésus va nous dire, pour contrer un peu toute cette déviation, il dira ces paroles dans Matthieu chapitre 11, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits, aux enfants, avec ceux qui ont un cœur ouvert. » Un cœur qui est l'image d'un verrou, mais qui n'est pas bloqué. Hein. Il y a deux mondes. Nous faisons face à deux mondes aujourd'hui. Il y a le monde qui s'évertue à vouloir se sauver par ses efforts. Et il y a le monde qui appartient à Jésus-Christ, le monde des chrétiens, mais pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens de cœur, des chrétiens qui ont fait une expérience, où nous nous reposons en Jésus-Christ. Parce que nous avons compris qu'il était la clé, qu'il était la porte, qu'il était la clé, et qu'il y avait là toute la connaissance en lui. Quand vous lisez les épîtres extraordinaires, la sagesse et la science d'un homme comme l'apôtre Paul, on se dit, mais alors, on va loin, hein? La richesse de l'Église. La connaissance de l'Église. Oui, peut-être qu'on est en concurrence avec une Église qui est apostate. Et elle a tellement renversé les choses que tout a été opacifié. Hein? Tout a été voilé d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Connaître, c'est le maître mot d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire que nous sommes appelés à rester des ignares et à rester dans l'obscurantisme. Au contraire, Le chrétien est appelé à faire marcher son intelligence. Nous n'avons pas à abdiquer à faire marcher notre intelligence. Nous n'avons pas à abdiquer notre intelligence. Mais à aller beaucoup plus loin. Mais de connaître ce que nous devons connaître. Mais c'est Dieu qui va nous l'enseigner. Et avec non seulement une connaissance qui enfle, surtout pas une connaissance qui enfle, vous reconnaissez Corinthiens là, hein, mais une connaissance qui est celle de l'amour. Et là, on va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons imaginer. Connaître, c'est le maître mot qui se substitue à la foi simple du cœur, qui remplace, finalement, qui remplace et qui conduit à un raisonnement stérile. Regardez, depuis des siècles et des siècles, les jeunes se tournent en rond. Et ils s'auto-gratifient en disant « J'ai découvert quelque chose de nouveau. » Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne parle pas des techniques hein, qui sont apparues, mais depuis que le monde est monde, l'homme est en errance encore. Eh oui, être sauvé par la science humaine, par la science des hommes, par la matière grise, par tout cet élément cérébral. Non, c'est pas là-dedans que ça se passe, c'est dans le cœur. Et avec le cœur, si ça commence ici, eh bien le reste va suivre. Mais dans une notion saine, une notion qui va glorifier Dieu et qui ne va pas ramener l'homme à l'animalité ou à la bestialité comme Paul le dit dans Romains chapitre 1er, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature et ça les a amenés à des choses infâmes. Cette vraie science selon la Bible, c'est la loi de Dieu, que j'appellerais peut-être plus la volonté de Dieu, l'expression du sentiment de Dieu, et si elle nous fait connaître quelque chose, c'est d'abord la connaissance de notre propre corruption, ce que l'homme ne veut jamais entendre, hein, de son péché. Vous savez qu'on va dans un temps, là, aujourd'hui, où on s'éloigne hein, de tout ça. Hein. Les choses qui sont réellement mal, on dit « mais non, c'est pas si mal que ça, c'est bien ». Puis vous êtes complètement tombé sur la tête, parce que finalement, qu'est-ce que vous imaginez? Mais nous, ce qu'on appelle mal, mais c'est forcément bien. Toutes les choses sont complètement, eh bien, renversées. La connaissance, la vraie science, c'est la connaissance de ce que nous sommes en tant qu'hommes. Hommes perdus, humanité perdue, et nous avons immensément besoin de Dieu pour être sauvés. Et c'est tout toute la belle nouvelle, toute la nouvelle de cette porte qui est large ouverte et grande ouverte avec la bonne clé de la foi, eh bien pour être sauvé. Romain nous le dit, il parlera, enfin c'est Paul qui le dit dans Romain, il dira tout simplement ces mots dans le chapitre 3 et à la fin du verset 20, si je le retrouve, il dira « Car personne ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi. Hein. » Ça c'est l'effort humain. « Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Mais la volonté de Dieu qui nous donne de comprendre qui est l'homme, sa perdition, on n'en veut pas. C'est pourtant la science. Et on est sauvé quand on prend conscience qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Autrement, c'est pas possible. Seule cette connaissance conduit à la repentance et à une vie transformée. Et Jésus reprochera à ces détracteurs que nous avons donc saisis là dans notre lecture tout à l'heure, vous enlevez la science et vous enlevez la vraie science et vous la modifiez à votre guise. Vous êtes en train de la déformer, vous êtes en train de l'altérer, vous la corrompez cette vraie science. À travers des paroles et des actions hypocrites. Vous savez que le mot hypocrite est souvent sorti de la bouche de Jésus, hein. Parce que les hommes se prennent pour Dieu, vous comprenez? Et de son temps, ils se prenaient pour Dieu. Et Jésus dira et ajoutera dans le réquisitoire qu'il le donnera sur les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, il dira à tout le peuple qui était là pour écouter les beaux discours et les beaux sermons, mais méfiez-vous de ces gens-là, parce qu'ils font, pardon, ils disent, mais ne font pas. Ça, c'est l'hypocrisie, naturellement. Je dis que l'évangile n'a pas de pire ennemi que l'esprit religieux qui conditionne et qui contraint les âmes par la peur. Parce que la vraie science, c'est celle de l'amour, je vous l'ai dit. Et avec l'amour, eh bien, on n'a plus peur. On est en sécurité, on est dans la paix. Vous empêchez ces hommes d'entrer. C'est un refus systématique ou un abandon, finalement, eh bien, des principes divins, refus d'enseigner la vérité de Dieu, que l'on aura passé par des traditions. que l'on aura placé par toutes sortes de rituels, de toutes sortes de choses qui confortent les hommes dans leur âme, mais qui laissent leur esprit stérile. Parce que la nouvelle naissance est quand même une vie de l'esprit, non? Oui, c'est pas l'âme. L'âme vient après, quand elle est soumise, quand l'âme d'un homme, d'un chrétien est soumise à la vie de l'esprit, alors à ce moment-là, ça va bien. Mais quand c'est l'âme qui prend le dessus sur l'esprit, je peux vous dire que oh, ça fait peut-être de belles envolées, de toutes sortes de choses, mais c'est pas ça, on n'est pas sauvé à cause de ça. Refus d'enseigner la vérité de Dieu. Mépris de la vérité de Dieu. La clé de la science, elle sauve. Et elle sauve pour la vie éternelle. C'est ce que fera dire Jésus, c'est ce qui fera dire ces paroles. La vie éternelle, Jésus le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils aient la science de ce que tu es, leur créateur, leur rédempteur, leur sauveur, celui qui pardonne. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Jean, chapitre 5, verset 20, qui dira ceci dans son épître, premier épître de Jean. Il dira, mais la véritable intelligence, la véritable sagesse, la véritable connaissance, c'est qu'ils te connaissent, toi, parce que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est tout, tout simplement. Troisième clé, rapidement, c'est la clé du royaume de Dieu. On a parlé de la clé des promesses divines, on a parlé de la clé de la science, la clé du royaume de Dieu. Nous avons cela dans Matthieu chapitre 16. Et au verset 19, et il est dit ceci, c'est dans cette conversation, dans ce dialogue que Jésus a eu avec Pierre, vous savez, Pierre et ses disciples, quand il lui dira « Tu es heureux Pierre, parce que tout ça, ça n'a pas été révélé par la chair et le sang, de ce que nous parlions un instant sur la science, mais ça a été révélé par l'esprit. » Et il dira ceci au verset 19, « Je te donnerai, il dit à Pierre, mais on va voir que c'est pas seulement pour Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, quelle interprétation avons-nous donnée dans l'Église traditionnelle? On va voir ça. Ici, et je le dis tout de suite, dans le texte, dans les paroles de Jésus, ici, rien à voir avec un mandat exclusif faisant de Pierre qui était un grand homme, au demeurant un homme d'exception, faisant de Pierre ou de ses descendants, dont nous parlons encore aujourd'hui, l'unique détenteur des prétendues clés dites du paradis, du royaume de Dieu. C'est une extrapolation des paroles que Jésus nous a données. Pierre en tant qu'individu, certes, mais il ne s'agit pas de mettre en avant une église parmi tant d'autres églises et lui donner la supériorité, lui donner la capacité d'une science supérieure, lui donner même l'exclusivité pour le salut des âmes. Mais c'est une parole qui s'adresse à Pierre, à tous ceux qui seront comme Pierre, à ce que nous pouvons être, à tous les hommes sur la surface de la terre dans la mesure où la parole de Dieu, la parole de Jésus reste et demeure l'autorité de leur foi. C'est pas une institution, comme nous le voyons, où il y a un tel labyrinthe de religion, un tel dédale, nous pourrions dire, où les gens disent, ben oui, mais les uns disent d'une manière, les autres disent deux autres. Les uns disent, nous avons la vérité, vous êtes dans l'erreur. Alors là, on écarte tout ça, parce que c'est véritablement eh bien, une œuvre du diable. C'est Jésus qui sauve, c'est pas une église, je le dis. Les frères et les sœurs qui se font baptiser, je leur dis, c'est pas le centre évangélique qui vous sauve, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez entendu dernièrement, il me semble, non? Je devais être là, peut-être, oui. Ah oui? Non, mais c'est quelque chose. Et ça, il faut remettre les choses fondamentales, il faut les remettre en place, dans un monde où on va dans n'importe quelle direction, et y compris même peut-être parfois dans nos églises. Faisons attention. Cette parole de Jésus est quelque chose d'important. Encore moins avec une religion qui aurait le monopole, je l'ai dit il y a un instant, je le confirme, du salut des hommes, en d'autres termes, hors de l'Église, point de salut. Bah écoutez, frères et sœurs, si vous avez dans votre cœur Jésus et Jésus seul, au fond de votre vie, de votre cœur, Mais vous êtes entré dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de Dieu. On a fait grand bruit autour de tout le reste. Les clés dont Jésus parle ne sont autres que la prédication de l'évangile ou le témoignage de l'évangile au monde entier pour offrir à tous ceux qui l'entendent ou qui l'entendront et qui y croient l'occasion d'une rencontre avec Dieu. C'est ça les clés. Moi, je me réjouis et je pense qu'il va falloir que l'Église en soit tout à fait consciente dans les temps qui vont venir, dans les décennies qui vont venir. Nous, on sera plus là. Certains d'entre nous ne seront plus là parce que nous aurons atteint la limite d'âge. Et peut-être de l'autre côté, justement. Mais écoutez, frères et sœurs, moi je le dis solennellement, que dans cette Église, on continue à prêcher l'Évangile. Parce que quand on prêchera autre chose ou quand on ne prêchera plus rien du tout, eh ben l'Église sera plus l'Église de Jésus-Christ. Vous avez la clé. Nous avons la clé. Chacun d'entre vous, vous avez un témoignage extraordinaire déjà de votre propre vie, de ce que Jésus a fait. Mais vous avez la clé. Et comment ça fonctionne? Comment des gens sont-ils baptisés? Comment des gens viennent à Jésus-Christ? Parce que vous leur racontez parfois votre témoignage. Vous leur parlez de ce que Jésus a fait pour vous, et ça leur donne véritablement envie de ce que vous avez reçu, ils le reçoivent de la part de Dieu. C'est la clé. Votre vie, qui pourrait être appelée évangile aussi, à titre personnel. Eh bien, c'est ce qui peut donner la foi aux autres. Nos églises ont été remplies parce que quelqu'un a rendu témoignage à quelqu'un d'autre. Et puis, ce quelqu'un d'autre a réfléchi, et puis Dieu, l'appel de Dieu, il a abordé du Saint-Esprit, a fait son chemin, il a fait son œuvre. Mais vous avez la clé. Ne dites pas que les temps sont difficiles. Ne dites pas que vous ne pouvez pas rendre témoignage. Ne dites pas que c'est impossible dans le contexte. Mais non, vous avez la clé. Alors servez-vous de ces clés, vous êtes devant une porte, parce que vous voyez que la porte est fermée. Mais c'est vrai que même les clés, les portes les plus rébarbatives de certains que vous abordez, en disant, on ne peut rien faire, il veut. Dieu vous donnera le savoir-faire, il vous donnera la technique, si vous me permettez l'expression, il vous donnera le doigté spirituel. Et ne vous résignez pas à dire, il est fermé, la porte est fermée, on n'y arrivera pas. Mais c'est pas vous qui allez le sauver, c'est le Seigneur Jésus qui le sauve. Oui, je vous avais dit que j'étais en forme. Bon. Envoyez-moi de plus en plus en vacances. Mais je me demande si c'est la retraite ou les vacances. Là, maintenant, il y a une grande confusion dans mon esprit, je ne sais plus comment faire. Alors, cette clé est un message qui ne fonctionne qu'en raison qu'il est ou non accepté. Paul dira, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, alors il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie même de votre témoignage. C'est une folie de la part des hommes. Ils se disent, mais ils sont complètement fous ces chrétiens. Ils sont tombés sur la tête. Ils nous parlent qu'il y a un ciel. Ils nous parlent que Dieu pardonne les péchés, ceci, cela. Et je peux vous dire que le monde a vraiment besoin. Dans l'état où il est aujourd'hui, dans sa misère, qu'il a besoin d'entendre cette folie. Les gens haussent les épaules. Ils écoutent, ils lisent la Bible, ils écoutent le message de l'évangile. Foi ou incrédulité. Allez par tout le monde, nous dit Jésus, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et enseignez-leur tout ce que je vous ai demandé d'observer. La foi n'a rien de nébuleux, et elle n'a rien d'abstrait, elle est fondée sur du solide, et Paul le mettra et le scellera sur du marbre, quand il dira cette parole dans Romains, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. » Priez pour qu'il y ait des prédicateurs qui se lèvent. Priez pour qu'il y ait des jeunes gens et des hommes qui se lèvent pour prêcher l'évangile. Il y en a besoin, Besoin d'entendre cette voix. À ce royaume, une porte, je vais bientôt finir, qu'on appelle la repentance, mais cette repentance, ça ne peut se faire que dans un climat d'humilité. À cette porte, il y a une clé, c'est la foi dans la prédication. Et elle ouvre. Et Jésus nous dit ceci, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Et ils ne pourront pas, non pas parce que Dieu fait une sélection, mais ils ne le pourront pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Tout simplement. Manque de foi, ou tout simplement, trop d'orgueil et de préjugés. Ce sont les écueils. Alors, ces gens, comme le dit la Bible, vont rester dehors. Non pas que, malgré leur intention d'y rentrer, mais ils restent dehors par eux-mêmes. Jésus nous dit cette belle parole, recevez mes instructions. Ouais. Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Parce que la clé de tout ça, eh bien, c'est vraiment la clé du bonheur. Et il y a un mot qui résume tout cela, c'est la simplicité dans un monde de complexité. Quatrième clé. La clé de toutes les victoires assurées. Apocalypse, chapitre 1er et verset 18. Il est dit ceci. Je suis le premier et le dernier. Et je suis le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand on sait que celui qui a dit cela, il est le prince de la vie. Alors, victoire assurée. Éternelle et énigmatique question. La mort et l'enfer. La seule contrepartie qui fait s'effondrer tout les raisonnements que j'appellerais naturels, c'est la foi en la résurrection. On va plus loin maintenant. Parce que les choses sont accomplies. Jésus est mort. Le problème est résolu. Le Sauveur est là. Le Rédempteur a satisfait à la justice et à la volonté de Dieu. Maintenant, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Je suis celui qui dispose, tout simplement, nous l'avons relu, les clés de la vie, les clés de tout simplement. Alors, la preuve, c'est le tombeau vide, tout simplement. La clé du mystère, la voici. C'est l'ange qui dira aux femmes au tombeau, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et il n'est point ici, il est ressuscité. Depuis 2000 ans, on cherche encore et on s'interroge sur une question qui est depuis toujours résolue, qui a trouvé sa solution. Le mot, c'est parce que les hommes refusent de croire, et ça s'appelle de l'incrédulité. « Si tu confesses de ta bouche, nous dit Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Je dis bien, c'est la clé de toutes les victoires assurées. Que je crois que Dieu m'a créé, que je crois que Dieu a fait tout un plan pour me sauver, que je crois qu'il a donné ce qu'il y avait de plus grand et de plus beau et de plus indispensable, c'est-à-dire la personne de Christ, ça je peux le croire. Mais si je m'arrête à la croix, si je m'arrête à Golgotha, eh bien il me manque l'essentiel. C'est que je crois beaucoup plus loin, c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence des hommes, qui dépasse notre compréhension. Comment un mort peut-il ressusciter? Comment un homme peut-il vivre? Humainement parlant, si nous restons sur le plan terrestre, c'est pas possible. On nous prend pour des fous, comme on a pris les apôtres pour des fous quand ils ont prêché l'évangile. Dixit, le livre des actes des apôtres, il disait, mais ils sont complètement tombés sur la tête, ces gens. Quand on est mort, on est bien mort. Eh bien non, justement. Parce que si nous sommes morts à nous-mêmes, nous allons revivre. Et le problème de cette humanité qui est encore dans le tombeau et qui va dans le tombeau et qui remplit les cimetières du monde entier, c'est parce que justement, eh bien quelque part, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu a donné ce qui était incapable, ce que l'homme était incapable de réaliser, c'est-à-dire de la mort, en faire sortir la vie. Et ça, il faut le croire. Il faut le croire. Les plus grands combats que j'ai eu dans le début de ma conversion, je croyais, c'est vrai, beaucoup de choses. Ah, mais c'était quelque chose de terrible de me tenir devant Dieu, mais de dire, mais Seigneur, mais c'est difficile de croire ça. C'est la bérésina de la raison et de la pensée humaine. Je disais, mais Seigneur, je veux bien croire beaucoup de choses, mais la chose dans laquelle j'ai du mal à croire, c'est que tu sois ressuscité. Eh bien, si nous avons cette confiance dans la résurrection de Jésus, mais nous avons tout le reste, la porte du royaume de Dieu nous est donnée, la porte de la vie. Les portes de la vie et de la vie éternelle. C'est une certitude qui peut éteindre toutes les frayeurs humaines que nous pouvons connaître. Vous avez peur quelquefois, vous avez des frayeurs, vous posez la question de demain et d'après-demain, et qu'est-ce qui vous arrivera si vous manquez de ceci et cela? Mais si vous croyez à ça, si vous avez la clé de cette foi dans la résurrection de Jésus, mais vous avez tout le reste, et vous n'avez plus rien à craindre, que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Je suis en Christ. Sans la foi, sans Christ Sauveur, sans repentance, c'est une mort inéluctable, une mort morale et une mort spirituelle. La foi en Jésus, eh bien, nous affranchit de la condamnation dont elle est en quelque sorte la conséquence du péché. Et je répète, oui, je répète de plus en plus, mais je vais le répéter encore, et j'espère que je le répéterai jusqu'à la fin. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je voudrais vous dire que vous allez partir en paix, et vous allez repartir avec cette pensée qu'il n'y a plus de condamnation. Vous allez peut-être me rétorquer, « Ah oui, mais je suis encore tellement plein de mauvaises choses. » Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La chose que vous devez savoir, c'est de mettre votre foi avant votre incrédulité et le doute que Dieu est capable de vous pardonner si vous lui demandez pardon. Plus de condamnation. Toujours la foi. Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il faut vivre ce que nous chantons. Il faut vivre ce que nous croyons, frères et sœurs. Si vous croyez que nous vivons, eh bien, il faut vivre la vie. Et non pas donner l'expression. Alors je sais qu'il peut y avoir des cas d'altération de notre équilibre physique ou de notre équilibre psychologique ou moral, mais le Seigneur nous guérit. Le Seigneur va nous donner tout ce que nous avons besoin pour cela. Et ça aussi, il faut le croire. J'ai marqué particulièrement sur la clé de la foi. La foi, c'est de croire toutes ces choses. Vivre sa vie librement, sans crainte, la mort et tout le reste. Car pour le véritable croyant, la mort augure toujours, non une fin, mais un commencement. Alors que Dieu nous bénisse. J'avais encore autre chose à dire sur les clés, parce que il y en a encore plus que ce qu'il y a ici sur mon trousseau. Mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que c'est extraordinaire de savoir et de pouvoir nous approcher en sachant que nous avons toutes choses, nous possédons toutes choses si nous croyons dans la personne de Christ. Nous avons la plénitude de toutes choses dans la personne de Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement courber nos fronts et remercier le Seigneur parce que lui, il est la porte et il nous a donné les clés pour passer cette porte pour le temps présent et pour l'éternité. Alors prions quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que il y a de tant de choses, Seigneur, qui sont à rappeler à l'Église, qui sont à rappeler pour chacun d'entre nous, qui sont à me rappeler moi-même qu'en effet, Seigneur, nous ne sommes pas laissés pour compte. Nous n'avons pas été laissés, Seigneur, sans moyens, sans possibilités. Mais les moyens et les possibilités, ce sont des moyens, Seigneur, qui ont une substance spirituelle, qui ont une, en effet, Seigneur, eh bien, des principes spirituels, qui sont des principes spirituels. Si nous cherchons encore à faire les choses par nous-mêmes, si nous cherchons encore à établir notre propre justice, si nous pensons, Seigneur, que nous devons grimper jusqu'au ciel par nos propres capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient, en effet, Seigneur, dans une science ou dans une autre, eh bien, nous nous trompons. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rappelé, Seigneur, qu'en effet, Père éternel, cette connaissance, ce n'est pas une connaissance qui enfle, c'est une connaissance qui peut-être au départ nous humilie, mais qui nous tient dans la modestie et l'humilité, parce que ta parole nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, et il résiste aux orgueilleux. Alors, moi j'aime bien cette parole lorsque tu le dis, qu'en effet je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, si les mots veulent dire quelque chose, donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants. Non pas d'être infantiles, non pas de rester, Seigneur, dans un état, en effet, précaire et primaire, mais de pouvoir, en effet, grandir par l'Esprit. Parce que l'Esprit, Seigneur, c'est la vie. Parce que l'Esprit, c'est l'éternité. Parce que l'Esprit, c'est la vérité. Parce que l'Esprit, c'est Dieu. Et nous pouvons t'adorer, Seigneur, de nous avoir appelés à connaître, Seigneur, et à savoir utiliser ces clés. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus, de ce que tu as dit que tu étais la porte. Et merci pour ton royaume dans lequel nous sommes rentrés. Merci pour ta grâce. Bénis l'Église. Au nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.